Radio Chablais, un point, c'est trois. Un point, c'est trois avec Maurizio.
Il n'est jamais trop tard ou trop tôt pour fêter et aujourd'hui on célèbre le nouvel an aztèque. Pour nous éclairer sur le phénomène du calendrier aztèque, très proche de celui des Mayas dont on a beaucoup parlé en fin d'année dernière, j'ai le plaisir d'avoir au téléphone Maurice Eric Efti, ethnologue, spécialiste des civilisations précolombiennes. Bonjour.
Bonjour.
J'ai fait quelques recherches sur la question du nouvel an aztèque et j'ai découvert qu'il existait à l'origine trois calendriers aztèques. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Vous avez tout à fait raison, Mauricio. C'est assez facile à comprendre si on est un peu mathématicien. Je veux dire par là que les Aztèques ont simplement créé un premier calendrier qui est peut-être le plus essentiel et qui nous touche sur le plan humain. C'est le calendrier que j'appellerais divinatoire, mais qui est également un calendrier qui correspond à notre gestation, c'est-à-dire exactement de 260 jours. Donc c'est exactement notre temps de gestation dans le ventre de notre mère et c'est composé en fait de 13 N qui, multipliés par 20, vont former ce 260, donc 13 fois 20. Et puis un deuxième calendrier qui, lui, est notre calendrier habituel, le calendrier solaire, mais que les Aztèques ont un peu faussé afin qu'il soit toujours par vingtaine avec un tout petit mois de 5 jours au bout, c'est-à-dire ils n'ont pris que 365 jours, ils ont oublié un peu le côté bissextile, et ils l'ont fait volontairement, et on vient de vivre ce dernier petit mois, ce 19e mois, avant le nouvel an d'aujourd'hui, et là alors c'est 18 mois de 20 jours, plus ce tout petit rien qui est rajouté à la fin, et qui permet ainsi par 365 de fonctionner avec l'autre calendrier en se rejoignant tous les 18 980 jours, c'est-à-dire tous les 52 ans. Et il y en a encore un troisième, c'est vrai, qui lui est le calendrier de Vénus, qui fonctionne avec 584 jours. C'est-à-dire, si vous regardez la planète Vénus en alignement avec le Soleil par rapport à notre système solaire, eh bien, elle ne peut pas se retrouver exactement au même endroit avant 584 jours. Et ça, c'est un calendrier qui est extrêmement précis et que les Olmèques, les Mayas, les Aztèques vont utiliser aussi en parallèle aux deux premiers. Et celui-ci est extrêmement pointu puisqu'on a à peu près 17 secondes d'erreur sur 102 ans parce qu'il suffit de multiplier 584 par 365 et par 260 et ils se rejoignent miraculeusement tous les 104 ans.
D'accord. Donc ce qui est assez surprenant, c'est que les Aztèques se sont basés sur Vénus. Pourquoi, enfin, est-ce qu'on sait déjà pourquoi ils avaient fait ce choix-là ?
Ah oui, disons, c'était le troisième calendrier qui, lui, est peut-être le plus intéressant puisqu'il ressemble véritablement à une forme de démarche comme il le faisait en chamanisme ou comme on le fait justement à partir de l'astrologie. C'est-à-dire que quand on regarde la planète Vénus dans le ciel, c'est quand même la planète la plus étrange dans son mouvement par rapport à nous-mêmes, par rapport à la Terre. Et elle fait un mouvement qui ressemble exactement à celui d'un serpent à plumes. D'ailleurs, le mot serpent à plumes, Quetzalcoatl, c'est le nom qu'on donnait à Vénus. Et si vous voulez, quand vous la regardez comme étoile du berger le soir, eh bien, vous la voyez à l'ouest, et puis tout à coup, elle descend petit à petit, elle plonge sous le niveau, je vais dire, de la Terre, parce que vous l'imaginez plat, bien sûr, et tout à coup, elle réapparaît par miracle à l'est, et c'est un peu une sorte de résurrection, une sorte de renouveau qui a beaucoup touché les précolombiens.
Alors Maurice-Éric Efti, je l'ai dit, trois calendriers aztèques qui sont liés au calendrier maya, le calendrier maya dont on a beaucoup parlé à la fin de l'année passée. Pourquoi ils étaient
de la fin du Grand Bactoun, là, oui.
Voilà. Pourquoi ces calendriers étaient liés avec celui des mayas ?
Alors il faut bien comprendre que ce ne sont pas, c'est pas une question de liaison, c'est une question d'histoire. C'est-à-dire le calendrier a certainement existé depuis plusieurs millénaires, mais il a été mis en place de façon plus mathématique et plus fonctionnelle, comme je vous le dis. C'est-à-dire qu'on l'a certainement découvert à partir de tout ce qui était astronomique, bien sûr, mais c'est les Olmèques qui ont déjà mis ce calendrier au point et qui l'ont transmis aux Mayas, qui eux-mêmes l'ont transmis aux Apothèques, qui eux-mêmes l'ont transmis aux Toltèques, et qui eux-mêmes l'ont transmis aux Aztèques, qui sont les derniers.
Donc finalement, ce calendrier, ben, il a passé de civilisation en civilisation. Enfin, ces calendriers.
Absolument. C'est comme nous, on a un calendrier julien à l'époque de Jules César, et puis on se retrouve avec un calendrier grégorien, quand on fait une correction à cause d'un pape, et puis il existe toujours aujourd'hui.
Évidemment. Maurice-Éric Efti, vous êtes spécialiste des civilisations précolombiennes, auteur d'un livre, hein, Je change mon destin, aux éditions Favre. Aujourd'hui, on vit le nouvel an aztèque. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Alors, tous les 365 jours, avec effectivement un jour d'erreur dont je vous parlais, les bissextiles sont sautés carrément à pieds joints dans le calendrier. qui correspond à nous. Mais il n'empêche que les roues dentées restent exactement au même endroit. C'est ça qui est important. Et aujourd'hui, eh bien, tous les 12 février, on tombe sur une nouvelle fonction de ce calendrier de 365 jours. Et là, c'est vraiment le nouvel an, dans la mesure où celui que nous avons aujourd'hui est assez exceptionnel, puisqu'on ne pourra pas le revivre avant 52 ans. Mais ça, c'est véritablement logique, parce que normalement, eh ben, ce serait plutôt, on pourrait retomber sur des années maison tous les 4 ans. Mais le fait qu'elle soit 1 va faire que l'année maison que nous sommes en train de vivre en chiffre 1 nous donne également la 13e qui est en 1 et l'année qui est en 1. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes 1 maison, 1 maison, 1 maison. Donc c'est assez rare qu'on puisse ainsi, l'année passée par exemple, on était 13 silex. Mais il n'empêchait que par rapport à cela, on n'était pas du tout dans la même 13e et qu'on avait naturellement une différence par rapport à cette espèce de je dirais, de montre à complications dont les dents se sont trouvées aujourd'hui 3 fois au même endroit. Et ça suit justement ce fabuleux calendrier Maya et je ne suis pas surpris qu'effectivement on ait exactement la même bascule qu'on vient de vivre répétée aujourd'hui.
Donc si je vous suis bien, vous avez dit que nous sommes en 1-1-1.
Oui, c'était un maison, un maison, un maison. C'est-à-dire un maison pour le jour, un maison pour la 13e et un maison pour l'année, bien sûr.
Donc finalement, c'est un parfait alignement.
C'est un alignement, exactement. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait un rapport assez impressionnant par rapport au 28 décembre qu'on a vécu ensemble sans oui. fin du monde. Et c'est la raison pour laquelle on en reparle aujourd'hui. Mais en l'occurrence, c'est assez exceptionnel parce que ça va naturellement déterminer quelque chose de tout à fait nouveau. C'est-à-dire après 13 silex, c'est un petit peu comme si je vous disais, ben voilà, le monde doit changer, on va rallumer 3 fois le feu, on va reprendre toutes les origines au départ et voir un petit peu de quoi on est fait. Et puis la maison, c'est quand même l'élément le plus tendre, le plus doux, le plus féminin qui soit, c'est-à-dire tout à coup découvrir quelque chose qui soit vraiment à l'opposé de ce qu'on a vécu au cours de ces 3 derniers siècles. Je dirais même que ça me tente de faire un livre que je vais appeler, je sais pas, par exemple, comme quoi on est dans une nouvelle forme génératrice, qu'on est vraiment, pourquoi pas, postmoderne, par exemple.
Mais vous nous l'aviez dit lorsque vous avez eu au téléphone pour évoquer la fin du monde, nous arrivons dans un cycle nouveau, vous le redites aujourd'hui, un cycle plus féminin, c'est ça?
Absolument, c'est-à-dire plus doux, beaucoup plus... C'est exactement comme si je vous disais qu'effectivement notre économie doit changer, qu'on n'y coupe pas, il faudra qu'on soit écologiste, il faudra qu'on soit plus économe, il faudra qu'on soit plus doux, plus tranquille. Enfin, il y a vraiment... Je dirais même si je prends le travail, eh ben, il faudra le vivre par création et non plus par obligation. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se mettent en route comme ça et qui montrent que ce n'est pas seulement un simple fait de société, c'est vraiment une transformation comme on a vécu la Renaissance ou comme on a vécu le Moyen-Âge.
Donc aujourd'hui, c'est le nouvel an aztèque qui induit donc ce changement. Comment on va le percevoir? Comment est-ce qu'on va le vivre? Est-ce que c'est quelque chose qui va se faire naturellement ou est-ce qu'on doit prendre conscience de ce changement?
Alors, ça va se faire, je dirais, lentement, mais en même temps avec une conscience de chacun qui se voit tout à coup par cette énergie obligée de transformer la façon de dépenser la sienne.
Ouais, évidemment, donc il y a quand même un travail personnel.
C'est à la fois personnel, mais l'aztèque ne fonctionne qu'en pensant que chaque individu dépend de l'ensemble du groupe et que le groupe dépend de chaque individu. Donc, ils ont quand même une philosophie un tout petit peu plus complémentaire que celle que nous avons créée au cours de ces derniers siècles et qui, justement, est peut-être la fin de l'individualisme.
Évidemment. Donc, finalement, je devrais changer pour faire changer ceux qui sont autour de moi, qui, eux, vont changer et vont me faire changer.
Voilà, je crois que ça correspond de nouveau au titre du livre que vous avez évoqué tout à l'heure, simplement c'est un plan plus global.
Voilà, je simplifie un petit peu. Donc autour du calendrier, enfin des calendriers aztèques, il y a aussi de nombreuses choses, dont des signes, les signes aztèques qu'on peut assimiler aux signes astrologiques, c'est juste?
Alors, je ne les associe pas vraiment à ce qu'on appelle de l'astrologie, c'est-à-dire que les précolombiens ont conçu 13 chiffres, comme je le disais tout à l'heure, pour le calendrier de 260 jours, et chaque chiffre a à la fois... un oiseau, une divinité, on y met des petites particules d'énergie, si vous voulez. On expliquerait ça un peu comme un Lego énergétique. Et ensuite, on monte naturellement un thème en prenant plusieurs éléments qui, eux, vont donner votre personnalité génétique ou épigénétique. Donc, les signes eux-mêmes, que je dise caïman, vent, maison, lézard, serpent, c'est pas tellement le mot en soi, c'est tout ce qu'il a pu contenir. Hein, le caïman, par exemple, si je prends le premier des signes, ben, naturellement, le caïman, c'est cette étrange bestiole sur l'eau et qui tout à coup remonte en surface et crée les montagnes, ben voilà, c'est la création du monde, c'est le premier signe, c'est la Genèse. Donc derrière chaque mot, il y a vraiment tout un fonctionnement énergétique et mythologique.
Donc voilà, si on a envie de découvrir quel est notre signe aztèque, il y a possibilité d'aller sur un site internet www.signe-azteca.com. Là, on va avoir plus d'informations. Maurice Éric Efti, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Je change mon destin, thérapie et astrologie aztèque aux éditions Favre, et qu'aujourd'hui, on fête le nouvel an aztèque, visiblement une nouvelle année beaucoup plus douce. Merci d'avoir été au téléphone avec nous.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Radio Chablais.